Cette semaine, on célèbre les journées d'études sur les archives judiciaires. Ouais, ça se passe du côté, évidemment, là, de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Je sais pas, les gars, avez-vous déjà eu l'occasion d'aller faire votre tour là-bas? Est-ce que vous connaissiez ce lieu?
Non. Moi, personnellement, je connaissais le site. J'avais déjà eu à utiliser le site Internet, mais je ne connaissais pas la... Je savais pas qu'il y avait un physique dans tout ça, là, qu'on pouvait vraiment aller voir les choses en vrai.
Moi non plus, puis c'est ce que j'ai appris notamment ce matin en regardant le journal Le Quotidien, parce que sous la plume de Normand Boivin, il est entre autres allé faire un tour là-bas, là, puis bon, évidemment, il a fait un voyage dans l'histoire judiciaire de la région. Des faits très, très intéressants, et vous pourriez vous aussi le faire au cours des prochains jours. On va en parler justement avec notre invité cet après-midi, puis je pense que vous allez triper autant que moi. Elle est archiviste coordonnatrice aux Archives nationales du Québec du côté de Saguenay. C'est Mme Myriam Gilbert qu'on a le plaisir d'accueillir. Bonjour Myriam.
Bonjour.
Est-ce que, tout comme moi, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe à proximité de chez nous?
Oui, c'est pour ça qu'on travaille fort pour nous faire connaître, parce que c'est un endroit où on a des trésors à découvrir, donc... C'est pour ça qu'on aime ça quand les gens, quand vous en parlez à la radio, quand les gens peuvent être au courant de qu'ils peuvent venir nous rencontrer ou qu'ils peuvent aller même sur notre site pour faire des recherches.
Qu'est-ce qu'on retrouve lorsqu'on va faire un tour du côté des Archives nationales du Québec?
Bien, en fait, nous, c'est sûr que la plupart de nos archives de notre côté, c'est au niveau du gouvernement, donc gouvernemental. On a beaucoup d'archives judiciaires, donc je vous dirais que presque la moitié de ce qu'on a comme archives, c'est concernant le judiciaire. On a aussi les tout ce qu'on a ici, le ministère de la Culture, tout ça, les directions régionales qui doivent nous verser leurs archives, qui sont tenues par la loi sur les archives. Et on a aussi des fonds privés, donc des fonds d'intérêt national, par exemple le fonds de la compagnie Price ou le fonds de la famille Dubuc, par exemple.
OK. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut aller consulter ça. Là, c'est pas nécessairement pour le travail, par exemple, qu'on peut y aller.
Non, pas du tout. Dans la plupart, c'est pour le plaisir. Il y en a que c'est pour le travail aussi. Donc, on a des chercheurs, on a soit des généalogistes ou des gens là qui aiment beaucoup l'histoire, qui viennent. On a aussi parfois, par exemple, des ingénieurs ou des architectes qui viennent consulter des vieux plans parce qu'ils ont besoin de refaire des travaux sur des bâtisses qui sont assez anciennes. Donc, nous, on a, dans le fond, souvent les plans de ces habitations-là. Donc, ils peuvent venir consulter, par exemple, pour ça. Nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on est un guichet unique. Donc, on est avec la Société historique du Saguenay.
OK.
On partage, en fait, les mêmes espaces. On est colocataires. Donc, quand les gens se présentent chez nous, ils ont accès autant de notre côté à la Bibliothèque et Archives nationales qu'aux archives de la Société historique du Saguenay. Donc, le chercheur est gagnant, donc il y a juste à aller à un endroit puis il a accès à peu près, 4 kilomètres de documents. Donc,
Et d'ailleurs, Myriam, moi, évidemment, je suis journaliste. J'aime beaucoup, entre autres, les faits divers, les procès judiciaires qu'on suit, entre autres, du côté du palais de justice. Et toi aussi, je pense que t'aimes ça, évidemment, parce que tu travailles de ce côté-là puis tu as été en mesure d'en découvrir. Et au fil du temps, y a-tu des gens qui se sont présentés de votre côté puis qui t'ont fait découvrir des choses de l'histoire régionale?
Oui, absolument. On en a souvent. Souvent, c'est les gens qui nous font découvrir les cas parce qu'on a tellement de documents, évidemment, qu'on peut pas tous les consulter. Ouais. Par exemple, c'est ça, une dame là qui est venue parce qu'elle était quand même âgée envers 80 ans. Puis elle est venue avec sa sœur. Puis ils m'ont raconté que quand elles étaient petites, leur grand-père avait essayé de les empoisonner avec de la mort au rat.
Oh.
Donc, il avait mis ça dans le beurre. Et puis, une de ses sœurs avait manqué décédée là, suite à ça. Il était 8 personnes à avoir été empoisonnées. Heureusement que le beurre avait goûté vraiment mauvais, fait qu'il avait pas, il n'avait pas mangé beaucoup là, à cause de ça. Et puis, le grand-père, finalement, il avait eu une défense à cette époque-là, c'est en 1947. Il y avait eu une défense de troubles d'aliénation mentale, finalement, comme on voit souvent aujourd'hui. Il y en avait aussi dans ce temps-là. Donc, il a été condamné à 5 ans. Et puis, ce qu'elle me disait, c'est que ce que nous, on voit pas, dans le fond, dans les archives judiciaires, ce qui est intéressant, c'est qu'elle me disait que le grand-père est revenu habiter avec eux après sa peine. Et puis qu'elle avait presque... Elle m'a pas dit ça comme ça, mais en tout cas, elle disait qu'il avait tellement peur qu'il les empoisonne de nouveau que quand il est mort, finalement, il avait été soulagé. Parce que il avait toujours peur de manger du beurre, finalement.
OK, toute une histoire. Et il y a une autre histoire qui a fait jaser, en tout cas à la station aujourd'hui, lorsqu'on a lu ça justement ce matin dans le quotidien. Moi, je ne savais pas que le 27 août 1927, entre autres, il y avait eu un meurtre qui s'était produit là, du côté de Chicoutimi. Et entre autres, ben, c'était le meurtre de Guatano Pepitone. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là, mais une chose est sûre, il y a quelqu'un qui a été pendu ici dans le district de Chicoutimi.
Ben, en fait, ça s'est passé dans la paroisse Sainte-Famille, à Jonquière. Gaetano Pepitone tenait un bar clandestin parce qu'à l'époque, on était en pleine prohibition là, dans la paroisse de Konogami. Et puis, lui, bon, il avait ouvert un bar là, clandestin dans sa maison. Et puis, c'est ça, c'est lui, dans le fond, qui a tué John McNally, qui était un jeune Irlandais qui était venu travailler à la chute à Caron. Donc, ça faisait trois semaines qu'il était arrivé. Et puis, là, John McNally est venu d'arriver dans la maison, en tout cas dans le bar clandestin, déjà passablement éméché. Et puis, il a cassé un verre et Gaetano lui a demandé de le payer. Et en guise de réponse, ben John McNally a donné un coup de poing dans la face de Gaetano qui a saigné. Et puis, c'est le cas de le dire, il a vu rouge. Donc, il a sorti un fusil et puis il a tiré trois fois sur John McNally. Les deux premières balles, c'était un calibre 32. C'était pas un très gros calibre, mais les deux premières balles n'étaient pas mortelles, mais la troisième balle l'a poursuivi jusque dehors, finalement. Fait que la troisième balle, là, il a traversé le cœur, donc il a tué devant un témoin John McNally. Et puis, Gaetano Pepitone s'est enfui. Il a été suivi par les policiers pendant deux jours. Là, ils ont essayé de le coincer, puis il s'est rendu après deux jours parce que là, il était évidemment affamé et fatigué. Et puis ça aussi, j'ai un monsieur qui est venu qui m'a raconté que son père était un des policiers là, qui s'est fait tirer dessus par Gaetano Pepitone lors de cette... C'était un peu comme le Far West, finalement. Mm-hmm. Il tirait sur les policiers. Et puis, c'est ça. Finalement, ben, Gaetano a eu son procès à Chicoutimi. Et puis, il était emprisonné à dans le fond, c'était pas la prison qu'on connaît maintenant sur la rue Price. C'était la première prison qui était sur la rue Jacques-Cartier et qui a fermé cette année-là, d'ailleurs, en 1929, parce que l'autre prison a ouvert cette année-là. Et puis, il a été pendu dans la cour de cette prison-là. C'est le seul pendu qu'on a eu dans la région. C'est pas le seul dans la région à avoir été pendu, il y a une nuance. On en a plusieurs qui ont été pendus ailleurs, dans d'autres prisons, par exemple à Bordeaux. Mais c'est le seul qui a été pendu dans notre région.
Mais là, s'il y a des amoureux d'histoire qui écoutent présentement, mais qui n'ont pas nécessairement d'idée de sur quoi ils voudraient avoir des connaissances supplémentaires, est-ce qu'ils peuvent se présenter à la bibliothèque et juste demander à avoir des histoires de ce genre-là? Est-ce qu'on peut demander à avoir des histoires particulières qui pourraient nous faire apprendre ou faut arriver avec une idée particulière?
Bien sûr. Donc, c'est sûr, habituellement, là, on fonctionne différemment dans le temps normal à cause de la pandémie. Habituellement, on n'a pas besoin de prendre rendez-vous. Là, malheureusement, il faut prendre rendez-vous parce que nos plages horaires sont limitées. Donc, les gens peuvent nous appeler ou nous écrire et prendre rendez-vous, dire « moi, j'aimerais ça venir consulter là, des archives ». Et puis, rendu sur place, on va pouvoir les guider là, dans ce qui pourrait les intéresser là, pour chercher. C'est sans fin qu'on commence à chercher là-dedans. On ne peut pas arrêter.
Et ce que je ne savais pas, Myriam, en plus, c'est que sur place, là-bas, vous avez même certaines pièces à conviction.
Oui, absolument. Donc, les évidemment, on avait les balles, on a les douilles et puis une balle qui a été retirée du corps de John McNally, qu'on peut voir dans le quotidien, là, mm-hmm. les photos. On a certaines pièces à conviction qui sont restées dans les dossiers, dans les boîtes, finalement, qui nous ont été remis. C'est pas tous les cas qu'il y a des pièces à conviction, mais il y en a quand même quelques-unes. C'est quand même intéressant. On a eu plusieurs cas judiciaires ici dans la région, dont l'histoire d'Émile Sprague, là, l'histoire de la Galope à Alma, où elle a été accusée d'avoir empoisonné son mari en 1925. Elle a eu 4 procès. Elle avait été condamnée à mort. Et puis, au terme du 4e procès, elle a été acquittée. Donc, c'est une des seules personnes au Canada à avoir eu autant de procès pour le même crime, là. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Puis on n'a jamais su finalement si elle avait empoisonné ou non son mari. Là. Ça reste un mystère. Mais c'est ça, c'était quand même rare qu'une femme ait été accusée de meurtre à l'époque. Là.
Écoute, Myriam, je t'écoute, puis j'aurais le goût de jaser avec toi toute la journée parce que j'apprends tellement des affaires sur ma région. Puis je suis certain qu'il y a bien des auditeurs également qui auraient le goût d'aller découvrir tout ça. Puis ça donne bien parce qu'actuellement, c'est ce que je disais d'entrée de jeu, là, vous êtes en journée d'études sur les archives judiciaires cette semaine?
Oui, c'est ça. Donc, on était à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi. Donc, c'est gratuit. Les gens peuvent aller s'inscrire en ligne. Donc, ils vont sur le site de bnq.qc.ca, puis ils vont voir l'annonce là, des journées d'études sur les archives judiciaires et peuvent suivre le lien qui est là. Et puis, il y a différentes conférences là, qui sont données sur les archives judiciaires. Donc, il y en a pour tous les goûts. Fait qu'on invite les gens là, que ça intéresse à aller consulter ça. Et sinon, ben ceux qui veulent vraiment plus les consulter en présentiel, comme on dit, ben ils peuvent venir nous rencontrer, ça va nous faire plaisir.
Et d'ailleurs, le site Internet que tu as donné, je crois que c'est le même site qu'on a parlé il y a quelques semaines, entre autres avec Marc Diquet, qu'il avait découvert, qui tapait son nom, puis il trouvait plein d'histoires, entre autres dans les journaux de l'époque d'ici. Là.
Oui, absolument, c'est bnq.qc.ca. Donc, on a vraiment là notre collection patrimoniale. On a les journaux qui ont été, entre autres ici, le journal Le Progrès du Saguenay, qui a été numérisé. Donc, on en numérise toujours. On est toujours en chantier là-dessus. Donc, on peut facilement trouver là, des vieilles histoires là, assez intéressantes dans les journaux, par exemple.
Myriam Gilbert, archiviste coordonnatrice aux Archives nationales du Québec à Saguenay. Merci beaucoup de nous avoir parlé cet après-midi.
Ça me fait plaisir.
Bonne fin de journée. Bye-bye.
Au revoir.